OK, l'enregistrement est parti. D'accord. Alors, on va commencer le cours. Omgyana Timirandasya Garanjana Sadakaya Chaksur Unmilitam Yena Tasmai Sri Guravina. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate
Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate
Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Srila Prabhupada ki
jai.
Alors, on est au module 2 aujourd'hui. On commence un nouveau module. Un sujet intéressant, le véritable rachat de nos fautes. Virginie, est-ce que tu voudrais lire, s'il te plaît?
Yes, Hare Krishna. Le véritable rachat de nos fautes. Dans ces versets du Srimad Bhagavatam, le roi Parikshit, le roi le plus intelligent de son époque, condamne une telle expiation. Shukadev Goswami, doué lui aussi d'une intelligence remarquable et digne d'être le maître spirituel de Maharaj Parikshit, répondit au roi en confirmant le bien fondé de ses dires. Car un acte coupable ne peut être neutralisé par un acte vertueux. Le véritable rachat de nos fautes, prayachita, s'effectue en ravivant notre conscience de Krishna, maintenant assoupie. La véritable expiation implique de parvenir à la connaissance parfaite. Et pour cela, il existe une méthode établie. Lorsqu'on suit les bonnes règles d'hygiène, on ne tombe pas malade. De même, l'être humain doit être formé selon certains principes de vie afin de raviver sa connaissance originelle. Mener une vie ainsi réglée constitue ce que l'on appelle l'austérité, tapachya. On peut graduellement s'élever au niveau du savoir véritable, de la conscience de Krishna, par la pratique de l'austérité et de la continence, brahmacharya, par la maîtrise du mental et des sens, par le don de ses biens en charité, en évitant avec soin toute duplicité, en restant propre et par la pratique des yogas ashana. Toutefois, celui qui aura l'heureuse fortune de bénéficier de la compagnie d'un pur dévot, d'un maître spirituel authentique, et sous sa direction d'observer les principes régulateurs de la conscience de Krishna, s'abstenir de tout rapport sexuel illicite, de ne pas manger de viande, de ne faire usage d'aucune substance enivrante et rejeter tout jeu de hasard, tout en s'engageant dans le service du Seigneur suprême, pourra facilement atteindre le même but sans devoir se soumettre à toutes les pratiques yogiques visant à maîtriser le mental. C'est cette méthode fort simple que recommande Srila Rupa Goswami. 2.1. Dans ces versets du Srimad Bhagavatam, le roi Parikshit, le roi le plus intelligent de son époque, condamne une telle expiation. Maharaj Parikshit est un Rajarshi, c'est-à-dire un roi qui, en plus d'être roi, est aussi un Rishi, ou en d'autres mots, un pur dévot. À titre de pur dévot, Maharaj Parikshit voit très clairement la supercherie de toute fausse expiation. Il la condamne aussitôt. Un pur dévot ne peut se contenter d'aucune forme d'hypocrisie. Telle est la preuve de sa pureté. Sa pureté est le résultat de son indéfectible pure dévotion à l'endroit du Seigneur suprême Shri Krishna. 2.2. Shukadev Goswami, doué lui aussi d'une intelligence remarquable et digne d'être le maître spirituel de Maharaj Parikshit, répondit au roi en confirmant le bien fondé de ses dires, car un acte coupable ne peut être neutralisé par un acte vertueux. La pureté de la conscience est toujours l'enjeu essentiel de la conscience de Krishna. Tout se réduit, quoi que l'on fasse, à la pureté de la conscience avant, pendant et après tout acte. Évidemment, il s'agit d'un idéal pour la majorité des gens qui ne sont pas conscients de Dieu à ce point-là. Néanmoins, tel est le standard. On peut y arriver en marchant dans les traces des grandes personnalités Vaishnava. Un acte coupable ne peut être neutralisé par un acte vertueux. D'accord. Le concept qu'un acte coupable puisse être neutralisé par un acte vertueux est une élucubration mentale, une théorie sans fondement. Cette théorie n'a rien à voir avec la vraie chose qu'est le repentir sincère et la décision conséquente de s'abstenir une fois pour toutes de commettre tel ou tel acte coupable en particulier. En tenant son bout de s'abstenir de tel ou tel acte coupable, cela vaut pour toute autre tentation de céder au péché, car la réalisation est déjà amorcée, que c'est tout à fait possible d'arrêter de pécher, que ce soit dans une forme ou une autre. Il n'est pas d'autre conclusion pour un dévot. Ceci est le critère à suivre tel que stipulé dans la Bhagavad Gita
Jai.
7.28.
Jai. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires?
Juste une petite question sur le péché, il est seulement dans le monde matériel. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de péché.
Exact.
Alors, aussi longtemps qu'on a cette conception de dualité dans ce monde matériel, on est toujours propice à se faire des péchés, on fait des péchés. C'est quand on s'abandonne au maître spirituel et à Krishna que le péché n'existe plus parce que on voit que l'amour divin, on est, on va dire, c'est le but, non? Un peu ça.
Oui. OK. Je vais comme contourner ton commentaire et revenir au texte parce que je trouve ça, c'est un bon point. OK. C'est dit ici, ligne 26, page 20. OK. On recommence le paragraphe. À la ligne 23. Le concept qu'un acte coupable puisse être neutralisé par un acte vertueux est une élucubration mentale, une théorie sans fondement. Ça veut dire, par exemple, j'ai fait un péché, puis je vais dans ma tête, soit c'est moi qui le décide, ou soit c'est mettons, un prêtre qui me dit, bon, ben, vous réciterez 10 Je vous salue Marie, puis voilà. Il dit rien d'autre, là. Il dit pas même, il ne dit même pas, ben, ne recommencez plus, là. Il dit pas ça, là. Il dit pas non plus qu'est-ce qu'il faut faire pour ne plus faire le péché. C'est juste chance, pris pour acquis que, ah, tant que la confession existe, le monde va, disons, raconter leurs péchés, puis demander l'absolution, puis ça, c'est correct. Bon, ça, on en a déjà discuté, et on va pas remettre en question disons, ce sacrement de la confession. C'est pas de nos affaires. Et bon, alors on continue. Cette théorie n'a rien à voir avec la vraie chose qu'est le repentir sincère et la décision conséquente de s'abstenir une fois pour toutes de commettre tel ou tel acte coupable en particulier. Mais là, ça aussi, c'est impossible à tenir. Si c'est juste une question genre, OK, moi je suis dans la conscience de Krishna, puis en fait c'est la même chose que chez les chrétiens ou n'importe quelle autre religion là, qui ont une façon de traiter le péché et puis obtenir pardon ou rémission des péchés. Mais est-ce que c'est suffisant? C'est ça le point. Même si on décide à l'intérieur de soi, OK, j'ai fait telle, telle chose, maintenant je ne le ferai plus. Ça, c'est bon. Mais ce n'est pas suffisant. Parce que c'est presque certain que ça va, il y aura une chute à un moment donné, encore une fois. Alors, qu'est-ce qui manque? Ça, c'est la question. Alors, on continue à lire. En tenant son bout de s'abstenir de tel ou tel acte coupable, Cela vaut pour toute autre tentation de céder au péché, car la réalisation est déjà amorcée, que c'est tout à fait possible d'arrêter de pécher, que ce soit dans une forme ou une autre. Sans d'autres mots, si on est capable de ne pas pécher une fois, on est capable de ne pas pécher deux fois, parce qu'on a déjà l'expérience. Alors, comme dans la chrétienté, ils appellent ça des tentations, et même dans la conscience de Krishna, là, ou pas des Chamlitons, on parle de tentation du verbe, etc., etc. Alors, le point, c'est de être capable de résister. Bon, ça, c'est un point. Ici, c'est dit, il n'est pas d'autre conclusion pour un dévot. Ceci est le critère à suivre tel que stipulé dans la Bhagavad Gita 7.28. Ça, on va le lire. Mais le point où on veut en venir, c'est que par notre simple volonté, ce n'est pas suffisant. Parce qu'il manque une certaine motivation qui est incontournable et qu'on ne peut pas, disons, jouer avec au niveau du mental. Alors, où est-ce qu'on veut en venir? C'est qu'on veut en venir au point où si quelqu'un a accepté un maître spirituel, qu'il est en contact avec un pur dévot de Krishna. On a lu ça en quelque part. Le fait d'être en contact. Attends une minute, on utilise ça ici. C'est dit ici, on peut y arriver en marchant dans les traces des grandes personnalités Vaishnavas. En tout cas, si on est en contact avec un pur dévot de Krishna et qu'on décide de, un, mettre sa foi, investir sa foi dans ce pur dévot de Krishna, le pur dévot de Krishna a une puissance. Sa puissance, c'est qu'il est capable d'arracher l'âme conditionnée aux griffes de Maya. En retour, le disciple doit suivre les instructions du maître spirituel, et cela, suivre les instructions du maître spirituel, dans les débuts, il n'y a pas de goût pour le faire. C'est simplement comme un ordre, comme dans l'armée. Le commandant te dit, marche droit, va-t'en en avant, 15 pas, tu fais tes 15 pas, tu poses pas de questions. C'est aussi simple que ça. Tu poses pas de questions. Tu reçois les instructions, tu poses pas de questions, tu le fais. Et, à un moment donné, avec le temps, ça c'est la discipline qui commence à faire son effet, mais l'effet d'une bonne discipline, c'est qu'à un moment donné, quelqu'un développe un goût pour cette discipline-là, il devient attaché. Et cette discipline-là, c'est pour servir Krishna. Alors, comme on a dit ici, pour un dévot de Krishna, là, il y a... Qu'est-ce que c'est rendu, cette affaire-là? Le dévot ne veut... Il voudrait pas perdre ce qu'il a gagné, disons qu'on peut dire durement, dans la conscience de Krishna, même s'il n'y a pas de difficulté, disons, théorique. Mais c'est quand même une décision qui doit être mature, qui doit être mûrie avec une grande réflexion, à savoir d'emprunter la voie de la pureté de la conscience de Krishna et puis s'en tenir à cette voie-là. Alors, dans une certaine façon, un dévot a comme des œillères. Il voit ce qu'il y a en avant de lui. Il doit voir son maître spirituel, Krishna, l'assemblée des dévots, les écritures, Guru Sadhu Shastra, et s'en tenir à ça. Ça, c'est les la voie pour un dévot de Krishna. C'est et par amour pour son maître spirituel. Très important. Alors, c'est comme il y a une histoire. Haridas Thakur, le Kazi avait envoyé une prostituée pour lui faire rompre ses vœux. Et lui, son vœu, c'était de chanter 300 000 Hare Krishna par jour. Et il avait envoyé une prostituée pour le dévier. Et Haridas Thakur, en fait, c'est lui qui a joué un tour à la prostituée. Il l'a convertie en dévote. À chaque fois, il lui disait, la première soirée, Haridas chantait ses tours. Puis là, il dit, ah, j'ai pas fini mes tours. Alors, reviens demain. Elle revient le lendemain, même chose. Et cependant, à un moment donné, à force d'écouter le chant pur d'Haridas Thakur, elle a eu un changement de cœur. Et elle a éveillé sa conscience de Krishna. Elle est devenue consciente de Krishna. Et Haridas Thakur lui a dit, ben, il était pas pour rester avec elle, là, quand même. Alors, il lui dit, OK, chante ici devant la plante Tulasi. Puis elle chantait, elle aussi, des tours devant la plante Tulasi. Et lui est parti ailleurs. Il est allé ailleurs. Alors, ça, c'est la voix d'un dévot. Et ça lui tient à cœur de suivre les principes régulateurs de la conscience de Krishna. Parce que c'est cela que son maître spirituel veut qu'il fasse. Alors, il y a un attachement pour le maître spirituel qui vient s'ajouter à toutes les prescriptions, toutes les interdictions, nommez-les. Mais ça, c'est très, très, très important. C'est ça qui va faire la différence, la fidélité au maître spirituel qui est le représentant de Krishna. Et comme on dit, on peut pas approcher Krishna directement. On peut l'approcher seulement à travers son dévot. Alors, faut être un dévot d'un dévot de Krishna pour justement embrasser la conscience de Krishna. Faut être un dévot d'un dévot du Seigneur Krishna. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires?
Maintenant,
oui.
Je pense qu'il faut, on veut de cheminer dans la conscience de Krishna, puis là, on veut agir comme un dévot. Je pense qu'il faut être souvent, faut s'observer, hein, j'imagine, parce que.
Il faut quoi, excuse-moi?
S'observer.
Oui, d'accord.
Nos actes, dans nos choix, parce que parfois, c'est très subtil, les situations qui peuvent se manifester, puis qui nous font dévier la voie qu'on veut garder. Fait qu'il n'y a pas juste les chrétiens qui sont pris là-dedans. Il y a aussi, je pense, des dévots, j'imagine. Cet enseignement-là est pour le dévot aussi, là.
Oui, c'est effectivement, tu as un bon point, c'est comme ça. Et qu'est-ce qui va faire la différence? C'est la purification des anarthas. Les anarthas veut dire les mauvaises habitudes, les mauvais plis qu'on peut avoir pris, et cela depuis longtemps, 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 depuis des années, ou peut-être même depuis des vies antérieures. Parce que notre mental est contaminé, et si on laisse le chemin libre à un mental qui n'est pas conscient de Krishna, c'est sûr qu'on va se faire entraîner dans toutes sortes d'actes coupables ou même des actes pieux. Ça vaut guère mieux que des actes coupables parce qu'on est encore lié à l'énergie matérielle comme telle. Alors, l'association des dévots, avoir un maître spirituel, suivre ses instructions, qui peut sembler une obligation, mais en bout de ligne, C'est pour notre propre bien-être qu'il faut faire ça. Alors, à un moment donné, la purification fait son chemin, et puis ça devient un mode de vie qu'un dévot ne voudrait pas abandonner. Alors, il y a des dévots qui parfois sont mis dans des situations, ils sont arrêtés par des non-dévots, ils sont presque forcés à faire des choses ou à dire des choses qu'ils voudraient pas. Mais les dévots, dans leur fort intérieur, savent, une fois que t'as la connaissance spirituelle, il n'y a pas moyen de te faire avaler, Maya. Peu importe ses formes. C'est le dévot, c'est comme ça. Il a les yeux ouverts par le maître spirituel, comme c'est dit, Om Gyana Timirandasya. Gyanan, Sadakaya, Chaksurun, Minitam, Nyena, Tasmay, Shigurave, Namaha. Que j'offre mon hommage respectueux à mon maître spirituel qui a ouvert mes yeux avec le flambeau de la connaissance. Alors, une fois que les yeux sont ouverts, c'est comme il y a pas de retour en arrière, à moins qu'on soit vraiment malchanceux, là, qu'on fasse exprès. Mais même à ça, on va se rappeler de Krishna pareil. Même si on est tombé très bas, on va s'en rappeler de ça. C'est ce qu'on appelle savourer le nectar des pieds pareils au lotus de Krishna. Une fois qu'on l'a, c'est pour de bon. Ça, oui. C'est la grâce de Krishna.
Ça se trouve à nous donner le plein discernement. À partir de là, on peut voir le vrai et le faux, le bon et le mauvais. T'sais. On peut percevoir mieux les choses avec le discernement qui est clair en nous. Là.
Exactement. C'est des fois, Maya est forte, c'est pas toujours évident.
C'est subtil parfois.
Oui, c'est subtil. Mais néanmoins, c'est pourquoi un nombre prescrit de Mahamantra par jour est indiqué. Parce que, en fait, c'est le Mahamantra qui nous garde sur la bonne voie. De chanter le Mahamantra, parce qu'on fait une prière à Krishna quand on chante, ô Krishna, ô énergie divine, veuillez m'engager à votre service. Alors, Krishna, il entend la sincérité de notre cœur et il nous donne l'intelligence pour justement discerner entre ce qui est Maya et qu'est-ce qui est Krishna, le service de dévotion offert à Krishna. Alors, comme c'est dit, il y a quatre principes régulateurs et c'est essentiel, c'est la base. Est-ce qu'il y a des questions?
Oui, juste rajouter sur ça, c'est dur de nettoyer les péchés. Premièrement, on les connaît pas toutes, on sait pas les péchés, puis on en fait tout le temps. Alors c'est comme vraiment, j'ai bien aimé qu'est-ce que Prabhupada a donné comme exemple, l'encrier.
Oui.
Si on rajoute constamment de l'eau propre, veut dire l'eau sale ou l'encrier va s'en aller. Alors, c'est pour changer, ça va être difficile, mais si on ajoute juste des bonnes choses, et les mauvaises choses, comme il dit, ça va s'en aller tout seul, sans se casser la tête. On va dire, on se casse un peu, là, mais c'est une route où ça se fait tout seul, ben, façon de parler, là.
Oui, je comprends. Et effectivement, c'est comme ça. Il n'y a pas besoin de se casser la tête outre mesure. Le faut faire confiance, on a confiance dans le processus. Le processus fonctionne, il a fait ses preuves, et puis on va se purifier. C'est aussi simple que ça, là. C'est la puissance du chant des saints noms qui est là et qui nous protège de commettre des actes coupables ou nous protège d'actes coupables accomplis dans le passé aussi. Alors, un dévot, quand il a des difficultés, disons, le dévot va penser quand même, ah, ça c'est le minimum de ce que je devrais avoir reçu par la grâce de Krishna. Et puis il accepte la condition et puis, mais il offre ses prières à Krishna. Il remercie Krishna quand il est au milieu de certaines difficultés. Alors, le dévot, lui, veut rester conscient de Krishna, peu importe qu'est-ce qui arrive. C'est... Alors, le corps matériel aussi est comparé à un bateau. Et le capitaine du bateau, c'est...
Faut que ce soit Krishna.
Non.
C'est le maître spirituel, le
capitaine. C'est le maître spirituel. C'est le maître spirituel qui est le capitaine. Alors, si on est dans le bateau, on doit avoir confiance dans le maître spirituel qui est le capitaine, et le capitaine va nous amener à bon port. Il faut suivre ses instructions, et puis on est correct. Voilà. Commentaire, question? OK, on va continuer. Alors, Benoît, voudrais-tu lire?
Oui, bien sûr.
Page 20, ligne 31, le verset de Bhagavad Gita, 7-28.
Yesham TV Anta Gatam Papam Jananam Punya Karmanam Te Vandata Moha Nirmukta Bhajante Mam Dardra Vrata. Isham donc tout mais Antagatam complètement arraché, Papam le péché, Jananam des personnes, Purnia pieuse, Karmanam dans les actes passés, et elle, Bandva de la dualité, Moha, l'illusion, Nirmukta, libre de, Bhajante, servant avec dévotion, Mam, moi, Tarda, Vrata, avec détermination. Ceux qui ont agi avec piété dans leur vie passée comme dans le présent, comme dans la présente et en ont banni le péché, sont délivrés des dualités illusoires. Ils me servent avec détermination. L'honneur est porté. Il est fait référence dans ce verset aux êtres qui ont les qualités requises pour atteindre les niveaux transcendantaux. Les pécheurs, les athées, les insensés et les hypocrites ont énormément de mal à franchir le cap de la dualité du désir et de l'aversion. Seuls ceux qui ont observé leur vie durant les principes régulateurs de la religion, qui ont agi saintement et triomphé des conséquences de tous leurs actes coupables, peuvent embrasser le service dévotionnel et s'élever graduellement jusqu'à la connaissance pure de Dieu, la personne suprême. Ainsi parviendront-ils à se hisser jusqu'au niveau spirituel et à méditer en état d'extase sur le Seigneur. Cette élévation est possible pour celui qui vit dans la conscience de Krishna, en compagnie de purs dévots capables d'arracher aux griffes de l'illusion. Puis, c'est-à-dire plus peu dévots capables de l'arracher aux griffes de l'illusion.
Ouais.
Le Srimad Bhagavatam 5.5.2 dit en outre que pour atteindre la libération, il faut se mettre au service des dévots. Mahat, Sevam, Dvaram, Hao, Vimukte. Ceux qui préfèrent la fréquentation des matérialistes prennent un sentier menant à l'existence la plus ténébreuse. Tamodvaram, Yoshitam, Sanghi, Changam. Les dévots du Seigneur parcourent le monde à seule fin de sauver les âmes conditionnées de leur égarement. Les impersonnalistes ignorent qu'oublier leur nature intrinsèque de serviteur du Seigneur suprême est la plus haute forme de violation de la loi divine. À moins donc de recouvrer sa position constitutive, il est impossible de comprendre l'être suprême ou de s'absorber pleinement et avec détermination dans son service d'amour transcendantal. Le goût supérieur d'une conscience purifiée est quelque chose qu'un dévot abandonné au Seigneur Bhagavad Gita 18.66 connaît et qu'il n'échangerait pour rien au monde. Le prix à payer pour ça, c'est l'abstention de commettre des actes coupables, quels qu'ils soient. Tel est l'effet du samadhi, d'un mental fixé sur Krishna, tel que le veut la conscience de Krishna, enseigné par Guru et Krishna, Bhagavad Gita 6.20 à 23. La Bhagavad Gita 2.59 renchérit sur la futilité des jouissances matérielles, tout autant de causes maniérées de commettre des actes coupables, car tout acte qui n'est pas pour Krishna doit être coupable en soi. Même si elle restreint ses jouissances sensorielles, l'âme incarnée conserve un attrait pour les objets des sens. Toutefois, qu'elle goûte quelque chose de supérieur et elle mettra fin à ses vains plaisirs, la conscience fixée au niveau spirituel. Le thème des actes intéressés versus la conscience de Krishna est repris dans le Srimad Bhagavatam 4.29.34.
Jai, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Pas de questions. Bon. Alors, le prix à payer pour la conscience de Krishna, parfois, c'est justement de tomber dans Maya, être égaré, pour se rendre compte, finalement, que vaut mieux rester dans la voie de la conscience de Krishna. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui arrive à beaucoup de personnes qui veulent être conscientes de Dieu?
Oui. Et on se rend compte qu'en fait, il n'y a pas mieux concernant la conscience de Krishna, en tout cas.
Exactement. Alors, c'est des fois quand on joue avec les allumettes, mettons des enfants qui jouent avec les allumettes, il y a quelques chances de se brûler. Mais le feu n'excuse pas les enfants même qui sont en bas âge. Le feu fait ce qu'il a à faire, c'est de brûler. Alors, de la même façon, la vie matérielle a en elle une certaine âpreté, pas propreté, âpre. La vie est âpre. Une certaine amertume qui est propre à l'existence matérielle, à la vie matérielle. Il y a toujours, à un moment donné, une certaine circonstance qui va réussir à nous déplaire. Que faut-il dire, de nous imposer une déconfiture pour nous faire prendre conscience justement que, écoute mon ami, c'est pas, y a pas de bonheur ici. Il n'y a pas de bonheur permanent dans la vie matérielle. Va regarder ailleurs. Et ce ailleurs-là, ben, c'est la conscience de Krishna, simplement. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? OK, alors on va continuer. Virginie, voudrais-tu lire?
Alors, on est donc au verset de du Srimad
Bhagavatam.
Bhagavatam.
Ouais.
Neikantata praktikara karmanan karma kevalam dvayam hi avidyo parshritam svapna ivanaga n'a jamais Ekantata, en fin de compte, pratikara, contraction, karmanan, des différentes activités, karma, une autre activité, kevalam seulement, dvayam, les deux, Rit parce que, avidya à cause de l'illusion, upashritam accepté, svapne en rêve, svapna un rêve, ivakom anaga, ô toi qui es libre de toute activité pécheresse. Narada poursuivit. Ô toi qui es libre de toute activité pécheresse, personne ne peut contrecarrer les effets d'une activité intéressée simplement en fabriquant une activité différente dépourvue de la conscience de Krishna. Toutes ces activités sont dues à notre ignorance. Lorsque nous faisons un rêve angoissant, nous ne pouvons pas le soulager par une hallucination angoissante. On ne peut contrer un rêve qu'en se réveillant. De même, notre existence matérielle est due à notre ignorance et à notre illusion. À moins de nous éveiller à la conscience de Krishna, nous ne pouvons pas être soulagés de ces rêves. Pour trouver la solution ultime à tous les problèmes, nous devons nous éveiller à la conscience de Krishna. Teneur et portée. Il existe deux types d'activités intéressées. Nous pouvons placer un poids sur la tête ou sur l'épaule. En fait, garder le poids à l'un ou l'autre endroit revient au même. Le transfert, cependant, a lieu sous le nom de contre-soulagement. Prahlad Maharaj a dit à ce propos que les sots et les crapules du monde matériel planifient à merveille des conforts corporels sans savoir que de tels arrangements, même s'ils réussissent, ne sont que maya. Les gens travaillent dur jour et nuit pour le bonheur illusoire du corps. Ce n'est pas une façon d'atteindre le bonheur. Il faut s'affranchir des liens qui nous retiennent à la matière et retourner à notre demeure originelle auprès de Dieu. Tel est le véritable bonheur. Les Védas affirment donc, ne restez pas dans l'obscurité de ce monde matériel, allez à la lumière du monde spirituel. Pour contrecarrer un mal affligeant, ce corps matériel, il faut en endosser un autre. Les deux situations ne sont que des illusions. Il n'y a rien à gagner à endosser un mal pour en contrer un autre. La conclusion est que l'on ne peut connaître un bonheur sans fin tant que l'on existe dans ce monde matériel. Le seul remède est de quitter complètement ce monde matériel et de retourner à notre demeure originelle auprès de Dieu. La conclusion est que toute tentative de bonheur indépendant dans le monde matériel ne peut qu'être vaine. À ce chapitre, nous devrions savoir que les carottes sont cuites, c'est peine perdue. En toute sobriété, nous devrions tourner notre attention vers le vrai havre du bonheur qui consiste en le royaume de Dieu.
Jai, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires?
J'ai un commentaire.
Oui.
On parle ici comme du royaume de Dieu.
Oui.
C'est s'asseoir avec le monde intérieur de Dieu, qui est l'énergie interne de Krishna, en fait.
Oui.
Même si on est sur Terre comme humain, dans ce cas-là, nous devons quand même exister à ce niveau-là aussi, en même temps, simultanément.
Oui.
Donc, il y a une partie de nous qui est notre partie originelle, qui, elle, demeure toujours à ce niveau-là. Est-ce qu'on fait un peu comme Krishna en tant qu'être créé et être à son image? C'est-à-dire qu'on descend dans ce monde, mais sans vraiment le quitter, on se projette quelque chose du genre?
OK. Disons, on dit que l'âme est consciente dans le corps et que l'âme est... excuse-moi, on recommence. On dit que l'âme est la conscience dans le corps. Et on dit aussi que l'âme est consciente. Ça, c'est la nature de l'âme, de l'être, c'est d'être conscient à tout moment de quelque chose. Parce que c'est sa vraie identité, c'est être une conscience, être conscient de. Alors, sa conscience originelle pure, c'est d'être consciente de sa relation éternelle en rapport avec Krishna, avec Dieu, la personne suprême. Alors, Lorsque Krishna vient dans le monde matériel, il ne va pas nécessairement aller tout partout, tout partout, tout partout. Il peut aller tout partout s'il veut, mais c'est pas ça qu'il fait. Il va venir dans un lieu qui est un lieu qui est fait exprès pour lui. C'est son le lieu de ses divertissements, comme par exemple Vrindavan, Mathura, Dwarka, lesquels sont des répliques du Vrindavan, du Mathura, du Dwarka qui existent dans le monde spirituel. Il y a aussi, Krishna a d'innombrables planètes dans le monde spirituel où il y a des formes de Narayan qui sont prédominantes sur ces planètes-là. Mais dans une façon ou d'une autre, peu importe l'endroit dans le monde spirituel, l'énergie est faite de connaissance, de félicité et d'éternité. Satchit Ananda. Et Krishna, lui, il est Vigraha, il a sa forme personnelle. Alors, un dévot de Krishna est quelqu'un qui va tenter, c'est un dévot néophyte, pas nécessairement néophyte, un dévot néophyte, oui, il va tenter, un dévot intermédiaire, un médium adhikari, lui aussi, c'est la même chose, va essayer de garder en autant que possible son esprit fixé sur Krishna. Là, il y a un autre genre de dévot, une autre catégorie de dévot qui est le pur dévot de Krishna, qu'on appelle Uttama Adhikari. Le Madhyama Adhikari est le dévot intermédiaire. Il n'est pas le plus haut, mais il n'est pas le plus bas non plus. Alors, le Madhyama Adhikari et l'Uttama Adhikari, les deux, voient Krishna partout. Ils trouvent toujours moyen de faire un lien entre n'importe quoi et Krishna, ou de voir Krishna dans n'importe quoi. Cependant, la différence entre les deux, c'est que le pur dévot, Uttama Adhikari, lui, il voit Krishna face à face. Ça, c'est la différence. Alors, quand nous, on regarde les déités dans le temple, on voit la forme de Krishna. La forme de Krishna nous est révélée, se révèle à nous petit à petit en fonction de notre pureté, en fonction de notre dévotion. Mais pour le Uttama Adhikari, le dévot de première classe, lui, il n'y a pas de différence. Krishna est vraiment là. Il le voit comme s'il le voyait face à face. Ça, c'est la différence entre Madhyama Adhikari et Uttama Adhikari. Alors pour oui, c'est correct, ça répond à la question?
Oui, c'est bon.
OK, parfait. Alors, si on veut devenir vraiment conscient de Krishna, plus que qu'est-ce qu'on ne l'est déjà, il faut rechercher à s'associer avec des purs dévots de Krishna. C'est la recette par excellence. Dévier de cette recommandation, à ce moment-là, c'est rester accroché à l'existence matérielle. C'est encore être influencé ou sujet aux suggestions de gratification des sens qu'ont en tête, auxquels sont habitués les matérialistes. Alors, comme on a lu aussi, c'est une citation du Srimad Bhagavatam 5.5.2, on a lu ça. C'est dit, ceux qui préfèrent, ça c'est à la page 21, ligne 13, ceux qui préfèrent la fréquentation des matérialistes prennent un sentier menant à l'existence la plus ténébreuse. Puis là, c'est cité le sanskrit Tamodvaram Yoshitam Sanghi Sangam. Tamodvaram. Tamaha veut dire l'ignorance. Et dvaram veut dire c'est la porte. C'est la voie vers l'ignorance. Sanghi, Yoshitam, Sanghi, Sangam. Ça, ces trois mots-là, ça veut dire l'association des hommes qui sont très attachés aux femmes. Ça, c'est Yoshitam, Sanghi, Sangam. Vous allez consulter dans le Srimad Bhagavatam le verset 5.5.2. Vous allez trouver le mot tamo de ça, là. Tamo dvaram, Yoshitam, Sanghi, Sangam. Alors, les dévots de Krishna, ils ont une relation de pureté avec les femmes. Mais pour les matérialistes, c'est pas une relation de pureté. C'est toujours une relation de vouloir profiter. Les femmes sont souvent abusées dans le monde matériel. Manque de respect, abus sexuels, ne pas les traiter d'égal, disons, avec respect. Et disons qu'on en passe. Mais un dévot, lui, il doit avoir une relation qui est pure avec les femmes. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un dévot doit être suffisamment éduqué dans la conscience de Krishna pour voir, considérer toutes les femmes comme sa mère, excepté son épouse. Alors, traiter toutes les femmes comme sa mère, comme si c'était vraiment sa mère. Alors, si est-ce que tu te poses la question, est-ce que si ma mère était en face de moi, comment je la traiterais? Est-ce que je lui ferais du mal? Est-ce que je voudrais abuser, profiter d'elle, l'injurier,
y envoyer
3-4 claques par la tête si quelque chose fait pas mon affaire, battre une femme? Est-ce que tu ferais ça avec ta propre mère? Si t'es vraiment une personne gentille, tu ferais jamais ça, tu y penserais même pas. L'autre genre de mère, c'est parce qu'il n'y a pas juste une sorte de mère. Il n'y a pas juste des femmes humaines qui sont des mères. Qui d'autre encore est une mère?
La vache.
La vache. Comme les Français disent, ah, la vache. c'est pas ça, là. Mais les Français disent ça. Ah, la vache. Mais c'est pas dans cet esprit-là.
Mm-mm.
Pour un dévot, c'est « Ah, la bonne vache, c'est ma bonne mère ». Le dévot a beaucoup d'estime, beaucoup d'appréciation pour les vaches. Pourquoi? Parce que les vaches donnent le lait. Et il y a tellement de préparation délicieuse et nutritive qui sont faites à base de lait. Et Krishna lui-même aime les vaches. Il en prend soin par milliers et par millions de vaches. Et en fait, sa planète à lui s'appelle Goloka. Go veut dire vache et Loka veut dire planète. C'est la planète des vaches. C'est la planète à Krishna. Goloka Vrindavan. Alors, le dévot, quand il pense aux vaches, il ne peut qu'avoir que de l'estime pour ces êtres-là qui donnent cet aliment merveilleux qu'est le lait. Et Prabhupada dit, quand la mère naturelle ne peut plus donner de lait, c'est la vache qui prend la relève. C'est la vache qui donne son lait. Et les êtres humains sont tellement barbare, qu'il tue même cette mère-là pour, disons, leur soi-disant plaisir gustatif. Alors, c'est très malheureux. C'est l'âge de Kali. Qu'est-ce qu'on peut pas voir dans l'âge de Kali? Il y a de tout dans cet âge. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires?
Il y a d'autres mères aussi?
Oui, il y en a d'autres, oui. Il y en a 7 en tout.
Je connais pas toutes. Il y a la mère Terre.
Oui, ça, c'en est une.
La mère du gourou. Ou
oui.
La femme du gourou. La femme du gourou.
La mère oui. du monde spirituel.
Oui, effectivement.
Radharani.
On peut dire, mais c'est, elle n'est pas mentionnée dans ces 7-là. Là. Il y a la femme d'un brahmana. Alors, quoi d'autre encore qu'il y a comme mère? Je sais qu'il y en a 7 en tout. Alors, ben, il y a la mère biologique, là, ça, c'en est une. En tout cas, on reviendra une autre fois pour le reste, si c'est correct. Bon. Alors, bon, ça. On va continuer. Chapitre 2, point 2, point 3. Moi, qu'il y ait d'autres questions ou commentaires?
J'aurais une question sur la prononciation.
Oui.
Dans le texte, là, Prahlada Maharaja, des fois le A, il semble muet, puis d'autres fois, il faut le dire. Parce que je vous entendais dire Prahlada Maharaja, Maharaj. Puis, tu sais, quand Krishna finit avec un A, puis on dit Krishna, on ne dit pas Krishna. Pourquoi que des fois c'est muet, puis d'autres fois c'est le pas? Comment je fais pour savoir la prononciation juste?
Ben, faut juste, mettons, l'écouter d'une personne qui fait autorité dans la lecture ou dans les mots du sanskrit. Et puis, Prabhupada disait Prahlad Maharaj. Comme Maharaj, c'est un mot qui revient souvent. Il y a un A à la fin, mais on prononce pas le A. Alors, et le Prahlad, même si c'est écrit Prahlada, on dit Prahlad. Prahlad Maharaj. Alors, des fois, ça se prononce, mais on peut dire que souvent, ça va sauter. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Toi, comme là, il y a le mot, là, dans le point 2.3, prayaschitta. Ben, le ta, là, faut le prononcer. On va pas dire prayaschitta. Et oubliez le A, il faut le prononcer celui-là. Mais dans le cas de Prahlad Maharaj, on saute les A. OK? Comme OK. On continue? Benoît, s'il te plaît?
Oui. Donc, le 2.3. Le véritable rachat de nos fautes. Prayaschitta s'effectue en revivant notre conscience de Krishna maintenant assoupie. On arrive enfin à la vraie chose. La vraie chose ne se trouve pas au niveau matériel, mais au niveau spirituel. La Bhagavad Gita 9.2 nous aiguille en ce sens. Le processus de la conscience de Krishna est sublime et parfait. D'entre tous les enseignements, ce savoir est le roi, le secret d'entre les secrets, la connaissance la plus pure. Et parce qu'il nous fait percevoir directement le soi grâce à une réalisation interne, il représente la perfection de la religion. Il est impérissable et d'application joyeuse.
Ça, c'est la traduction. C'est le verset comme tel, Bhagavad Gita, chapitre 9, verset 2. Continue.
En s'appliquant au processus de la conscience de Krishna, on fait d'une pierre trois coups. 1. Un engagement positif au service du Seigneur, d'où un bonheur sublime immédiat. 2. Un affranchissement automatique et proportionnel de toute forme de conscience entachée de péché, source même d'actes coupables par voie d'entraînement. toi l'atteinte d'une conscience pure et sublime.
Jai, est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Alors, c'est trois coups, comme on s'est appelé ici. Ça, tu peux le réaliser quand tu es vraiment dans l'association des dévots, et en particulier, spécifiquement, lorsque tu es en train de faire, mettons, de l'adoration des déités avec d'autres dévots. Ceux qui sont pujari, par exemple, qui sont sur l'autel et qui, dans leur service, les pujaris, ils vont à tous les matins habiller les déités de nouveaux vêtements, baigner les déités d'abord. Ça veut dire enlever les vêtements de la veille, les baigner, et leur mettre des nouveaux vêtements. Et disons, dans un temple comme Montréal, il n'y a pas juste une paire de déités. Il y a plus qu'une paire de déités. Il y a Gauranitai, il y a Radha Krishna, comme à Montréal, c'est Radha Manohar, les grandes déités de Radha Krishna. Ensuite, il y a les petites déités de Radha Madan Mohan, c'est ça? C'est son nom. Et puis, ensuite, les déités de Jagannath. Il y a un gros Jagannath. Ensuite, Baladev, Subhadra, Jagannath en petit. Alors, pour toutes ces déités-là, il y a des dévots qui sont assignés au service de telle ou telle déité. Ce qui veut dire que des fois, tu vas avoir, mettons à Montréal, t'as au moins trois pujaris derrière l'autel, sur l'autel pour faire cela. Parfois, dans d'autres temples, tu vas en avoir pratiquement pareil. En France, Nouvelle-Mayapur, il y a trois sets de déités. Il y a Gaurinitai, Radha Krishna, ensuite Krishna Balaram. Ça prend au moins trois dévots pour s'occuper d'habiller, disons, s'occuper des déités. Et après, quand ils ont fini, c'est l'heure d'ouvrir les rideaux et l'assemblée des dévots contemple ou regarde les déités habillées dans leurs habits du jour. Et aussi mettre des guirlandes de fleurs fraîches tous les jours sur les déités. Alors, il y a une équipe de dévots ou dévotes, surtout des dévotes qui font ça, faire les guirlandes pour les déités, pour l'ouverture des rideaux. Et à tous les jours, c'est comme ça, immanquablement. Et il y a des dévots ou dévotes qui vont cuisiner l'offrande, parce que c'est pas juste habiller les déités, mettre des guirlandes, mais aussi il faut faire une offrande. Pour faire une offrande de nourriture aux déités. Alors, il y a un petit déjeuner qui est cuisiné et offert aux déités. Des fois, les déités ont plus de variété dans leur assiette que les dévots assemblés. Alors, comme par exemple, ils vont donner aux déités des fruits, des choses, mais ils vont pas cuisiner des fruits en quantité pour l'assemblée des dévots. Alors, les déités auront des fruits coupés en petits morceaux, dans des petits bols chacun, des petites coupes chacun, et puis des mangold sweets aussi. Tous les matins, à 4 heures du matin, les déités ont des mangold sweets, c'est-à-dire des sucreries exprès pour les déités. Et ça, ce n'est pas pour les dévots comme tels. Ils vont pas faire des mangold sweets pour les dévots. Ils font des mangold sweets seulement pour les déités, ce qui devient du Mahaprasad, et les dévots vont être offerts, rendus au petit déjeuner, un petit morceau, un petit quelque chose, des mangold sweets. Et ceux qui sont plus malins que les autres, ils vont aller voler des mangold sweets. C'est comme à la Nouvelle-Mariapour en France, dans la... C'est incroyable. Ils ont un endroit qui est pour les déités. Ils ont une pièce. C'était jadis une grande porte, là. Tu rentres debout là-dedans. Avec une épaisseur, très grosse épaisseur, là. Là-dedans, ils mettent le Mahaprasad. Le prasad offert aux déités. Pour pas que les dévots viennent en prendre. Ben, malgré tout, il y a des dévots qui vont réussir à aller chercher du Mahaprasad. Même si c'est caché dans une pièce avec une grosse porte. Comment ils font leur compte? Je ne sais pas. Mais quand ils veulent, ils veulent. Les dévots. Mais justement, lorsque on est dans ce service de Pujari, service aux déités, tous ces points-là, 1, 2, 3 que nous avons lus, ça s'applique. Ce n'est pas comme si on est tout seul, puis on chante nos tours, puis on n'a pas vraiment d'expérience pratique d'adorer les déités en groupe. Parce que lorsque tu es en groupe, là, le groupe, je veux dire, c'est pas 50, là, c'est 2, 3, 4, 5 dévots qui sont impliqués dans l'adoration des déités. Il y a une atmosphère spéciale. Tu peux pas avoir la tête distraite. Il faut que tu aies la tête vraiment concentrée sur qu'est-ce que tu fais. C'est pour les déités. Tu regardes les déités, tu les as en plein dans le visage. Parce que moi, j'ai déjà fait le deity worship en France, Gornithai. Gornithai sont des déités d'à peu près au moins, disons, 48 pouces de haut. Alors, quand tu habilles les déités ou que tu t'occupes des déités, t'es à genoux. Tu sais, un grand gars comme moi, disons, un soi-disant grand gars, un gars de 6 pieds quelque chose, devant des déités qui font 4 pieds, il faut que tu sois à genoux. Puis là, tu arrives que leur visage est en plein dans ton visage. Puis tu sers les déités comme ça. Tu es sur l'autel. Alors, sur l'autel, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent des tissus. Que tes pieds vont toucher à l'autel, mais sur le tissu. Tu vas pas marcher sur l'autel comme tel, mais... C'est pratique comme ça. En tout cas, en France, c'est comme ça, la Nouvelle-Mayapour. Les déités même à Montréal, c'est en marbre, c'est à une certaine hauteur. Puis les déités, il faut qu'ils soient là. Il faut qu'ils fassent ce service-là. Alors, dans cette atmosphère-là, il y a aucune place pour être distrait mentalement, pour penser à autre chose que les déités. Et puis là, ça te donne une expérience de la conscience de Krishna, là. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment avoir la tête fixée sur Krishna? Et après, tu t'en rappelles tout le temps pour le restant de tes jours, qu'est-ce que tu as fait comme service pour les déités. Et c'est une très belle expérience, c'est très purificateur, et puis c'est merveilleux, la conscience de Krishna. Voilà. Est-ce que, oui?
Moi dans ce... Dans ça, je vois l'exemple de Jésus.
Oui.
Jésus, toujours disait-il, je fais la volonté de mon Père.
Oui.
C'était ça qui était son intention. C'était juste ça. C'était rien pour lui, rien. La volonté du Père. C'était une communion vraiment profonde avec son Père. C'était évident.
Oui. Et justement, n'importe qui était autour de lui, ça déteignait sur ces personnes-là. Parce que c'est lui, il dit qu'il pense, ne fait que la volonté de son Père, qu'il ne pense qu'à son Père, puis en plus, il dit, c'est quoi le plus grand commandement? C'est d'aimer Dieu de toute son âme, tout son cœur, toutes ses forces. Alors, c'est ça, là, c'est la conscience de Krishna aussi, ça. Alors, c'est merveilleux. Alors, quand quelqu'un arrive à se positionner et à rester stable dans cette conscience-là, il sait qu'il n'y a rien de mieux que ça. Alors, dans la Bhagavad Gita, comme on a cité aujourd'hui, le chapitre 6, verset 20-23, ça, c'est des versets qui sont comme la culmination du chapitre 6, là. C'est quoi le samadhi? Avoir l'esprit fixé sur Krishna, c'est dans ce verset-là. Ces trois versets-là sont tous conjugués ensemble. Chapitre 6, versets 20 à 23. Et là, c'est dit, quelqu'un qui arrive à ça, il sait qu'il n'y a pas plus haut que ça. Il n'y a pas plus grand que ça. C'est la perfection du yoga. C'est d'être vraiment, avoir un esprit complètement, si on peut dire, absorbé en Krishna. Et
c'est la perfection de la vie humaine, en fait.
Oui, c'est la perfection de la vie, être absorbé dans la pensée de Krishna, dans vouloir servir Krishna, et rien d'autre que ça. Disons, des grands dévots comme Dhruva Maharaj, même Prahlad Maharaj, le Seigneur Nrisimha Dev est apparu, il l'a sauvé d'Hiranyakashipu, et le Seigneur Nrisimha Dev demande à Prahlad s'il veut une bénédiction quelconque. Prahlad répond, non, je veux rien demander parce que si je demandais quelque chose, je serais comme un marchand. Alors, je veux pas marchander. Alors, non, je veux rien. Alors, Dhruva Maharaj, c'était la même chose. Le Seigneur Narayan lui dit, tu peux me demander n'importe quoi. Et Dhruva Maharaj répond, je cherchais des morceaux de verre brisés. Et maintenant, j'ai devant moi le joyau le plus précieux. Je veux rien d'autre. C'est la grâce de Krishna. Alors, Vamana Dev, il a protégé Maharaj Ambarish et c'était la même chose, demander une bénédiction quelconque. Demandait rien. Et Vamana Dev dit, OK, je vais être ton portier. C'est moi qui vais ouvrir la porte chez vous. Quand le monde vient, moi, je vais ouvrir la porte. Alors ça, c'est des relations de grands dévots avec Krishna. Voilà. Alors, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci beaucoup de venir au cours. Toujours apprécié.
Merci à tout le monde.
Merci à vous.
Oui.
Bon,
on se revoit samedi.
Haribol. À samedi.
Haribol, les gens.
Allez, Krishna.
Oui, bonne soirée à tout le monde.
Allez, Krishna. Allez, Krishna.
Allez, Haribol. Jai. Jai.
Jai.
Bon. So. Ça marche. Non.